VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président sud-africain Jacob Zuma a retiré aujourd'hui son recours devant la justice pour empêcher la publication d'un rapport sur la corruption au sommet de l'État, potentiellement très embarrassant au moment où se multiplient les appels à sa démission, a affirmé son avocat devant un tribunal de Pretoria. Ce rapport très attendu a été rédigé par la médiatrice de la République, Thuli Mandoncela, juste avant qu'elle ne quitte son poste à la mi-octobre. Il concerne principalement les soupçons d'influence de la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta sur le président Zuma, au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. En République démocratique du Congo, le rassemblement à la coalition d'opposition réunie autour de M. Tshisekedi projette de tenir un meeting populaire samedi à Kinshasa, censé mettre la pression sur le président Kabila. Entre-temps, à l'initiative du chef de l'État, la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO, tente de rapprocher les deux camps. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, se prononce sur l'initiative.
Nous avons toujours dit que le problème dans ce pays, c'est M. Kabila. Il n'y a que lui seul qui peut aider à ce que la crise soit décantée. Et s'il prend l'initiative de reconnaître sa lourde responsabilité qu'il a vis-à-vis du Congo, vis-à-vis de l'histoire, et au jour d'aujourd'hui, la CENCO est chargée de mener des contacts, nous espérons que ça va marcher. Nous allons faire comme les Américains. Nous négocions à gauche et à droite. Nous continuons à nous battre. S'il n'y a pas un vrai dialogue pour apaiser la tension, je crois que la deuxième option est toujours là. Nous allons nous battre pour faire respecter notre constitution. Notre meeting se tiendra bel et bien à la date et à l'heure indiquée. Qu'il n'en ait plus à ceux qui pensent qu'ils ont le droit de violer la constitution, violer l'article 26 de notre constitution. Mais nous nous disons que nous serons là et nous tiendrons notre meeting.
Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS et membre du rassemblement. En Gambie, Human Rights Watch a estimé aujourd'hui qu'il n'y avait aucun espoir que l'élection présidentielle de décembre soit libre et honnête en raison des manœuvres d'intimidation contre les partis d'opposition, de la répression contre les médias et de l'utilisation à des fins politiques des forces de sécurité. Depuis le mois d'avril, des militants du principal parti d'opposition, le Parti démocratique unifié, UDP, ont été arrêtés lors de manifestations pacifiques. Au moins deux d'entre eux sont morts en prison et plusieurs autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement, selon Human Rights Watch, dans un rapport publié un mois avant l'élection. L'opposition gambienne a choisi dimanche un candidat unique en la personne de Adama Barrow de l'UDP pour affronter le chef de l'État à la présidentielle du 1er décembre.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le oui l'a emporté avec plus de 93% et un taux de participation de plus de 40% dans le référendum constitutionnel de dimanche. Pour être président, le nouveau test stipule qu'il faut être de père ivoirien ou de mère ivoirienne. Pour autant, est-ce que cette nouvelle constitution règle la question de l'ivoirité qui avait plongé ce pays dans une guerre civile meurtrière? Idriss Fall a recueilli la réaction de Kwadio Konan Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale.
On aurait pu le penser si les Ivoiriens avaient été associés à la nouvelle constitution et s'ils y avaient adhéré. Tel n'est pas le cas. Depuis l'origine de cette nouvelle constitution, dans sa rédaction, qui avait été confiée donc à un comité d'experts qui lui-même manquait de légitimité populaire, comité d'experts de par la volonté unique du chef de l'État, il vient de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Le peuple ivoirien n'a pas été associé. On a simplement poussé la forfaiture jusqu'à faire jouer aux députés à l'Assemblée nationale un rôle qui n'est pas le leur, un coup de force constitutionnel. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dit-on, ont été aux urnes. Nous savons très bien que sur le terrain, ils ont boudé les élections. Quand c'est pas le boycott par endroit, le taux de participation s'élève maximum entre 9 et 11%. Ce que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que de la supercherie. Ça ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. On vient donc certainement de leur imposer une nouvelle constitution. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? D'après les Anglais, wait and see.
La première chose, c'est le poste de vice-président. Ça va déclencher peut-être quelques querelles de succession, non?
Ce n'est même pas forcément de ça, les querelles de succession, qui intéressent les Ivoiriens. Nous sommes un État républicain, que le principe de la République, c'est le pouvoir du peuple. Les Ivoiriens vont se retrouver retrouver devant une situation où on va leur nommer un successeur qui, visiblement ou probablement, va être président de la Côte d'Ivoire sans avoir été élu par les Ivoiriens. Voilà le cas de figure qui consacre un recul net de la démocratie dans notre pays.
Et qu'en est-il de la création d'un Sénat?
Tout ça est budgétivore. Même en France, pays développé où ils ont beaucoup d'argent, ce sont là des institutions de luxe. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens aujourd'hui de se le permettre quand on sait la pauvreté dans laquelle croupissent l'ensemble des Ivoiriens. Ce sont des institutions qui n'ont pas vraiment aujourd'hui leur raison d'être.
Est-ce que vous pensez que cette constitution va clore tous les problèmes de la Côte d'Ivoire?
Ce que je constate, c'est que la première constitution, celle que nous avons encore en vigueur, elle a été votée en 2000 par l'ensemble des Ivoiriens, dit-on, à 86%. Pourtant, deux ans après, ça n'a pas empêché qu'elle nous conduise, n'est-ce pas, au désastre. Cette fois-ci, voici une constitution qu'on peut pose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, visiblement, ne l'ont pas accepté. Ils sont dans la rue pour s'y opposer. Ils n'ont pas été aux élections. Même si on a revu les chiffres à la hausse, comme il fallait s'y attendre, cela pose évidemment le problème de la crédibilité de nos institutions, surtout la crédibilité de la CEI.
Pourtant, on a l'impression que le patron du PDCI a donné sa baraka, notamment l'ancien président ivoirien, non?
Oui, mais l'ancien président ivoirien, il y a 10 ans en arrière, c'est lui qui avait dit tout à fait le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Comme quoi, la politique a son autotropique.
Kwadio Konan Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale. Rapport accablant sur les casses bleues au Soudan du Sud. La force onusienne est accusée d'inefficacité. Conséquence, le commandant de la force a été limogé, Eric Manirakiza.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré profondément affligé par les conclusions et inquiet des graves lacunes identifiées. Selon le rapport, les casques bleus ont réagi de manière chaotique et inefficace aux violences de juillet à Djouba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Le commandant de la force a été immédiatement limogé. Le rapport souligne aussi l'échec à répondre à l'incursion le 11 juillet de soldats sud-soudanais dans un hôtel abritant des employés d'organisations internationales et proches d'une base des Nations Unies. Des combats meurtriers avaient opposé du 8 au 11 juillet les troupes du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle Riek Machar, alors vice-président du pays. L'enquête dirigée par le général néerlandais à la retraite, Patrick Kammaert, met en cause des lacunes de commandement, le manque de préparation des casques bleus face à l'imminence prévisible d'une reprise des affrontements entre forces gouvernementales et rebelles sud-soudanais et une aversion au risque, les rendant réticents à user de la force pour protéger les civils.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Italie est divisée à un mois du référendum constitutionnel entre les partisans du oui mené par le chef du gouvernement Matteo Renzi et ses adversaires qui souhaiteraient le faire chuter à l'occasion de ce scrutin. Selon plusieurs sondages récents, le non est en tête avec 2 à 4 points d'avance sur le oui, mais le nombre d'indécis reste élevé à environ 20%. La réforme vise, selon ses promoteurs, à simplifier le processus législatif et à apporter davantage de stabilité politique dans un pays qui a connu 60 gouvernements depuis 1946 en limitant fortement les pouvoirs du Sénat. Une nouvelle pause humanitaire à Alep en Syrie, deuxième ville du pays ravagée par des bombardements, sera mise en place vendredi pendant 10 heures de temps sur ordre du président Vladimir Poutine, a annoncé aujourd'hui l'armée russe dans un communiqué. Cette décision a été prise en accord avec les autorités syriennes, a-t-il précisé. Une première trêve humanitaire de 3 jours mise en place à Alep par l'armée russe syrienne qui prévoyait l'arrêt de tous les tirs dans cette ville divisée a expiré le 22 octobre sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés ni le retrait des combattants. Et le roi Salman d'Arabie Saoudite a adressé un message de félicitations et de soutien à Michel Aoun, élu à la tête de l'État libanais avec le soutien du Hezbollah. Allié du régime syrien et de l'Iran, grand rival régional donc de Riyad, l'Arabie Saoudite. L'ex-général de l'armée Michel Aoun est devenu lundi le nouveau président du Liban, mettant fin à un vide institutionnel de 2 ans et demi causé par de profondes divisions liées notamment à la guerre en Syrie. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans exactement 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.